VOA Afrique, les infos à Washington.
Avec vous Henri Francisque, 13h à Conakry, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. À La Haye, aux Pays-Bas, la CPI, la Cour pénale internationale, rend son verdict en appel aujourd'hui dans le procès de l'ex-vice-président de la RDC, Jean-Pierre Bemba Gombo, reconnu responsable d'une vague de meurtres et de viols commis par sa milice en République centrafricaine. L'ancien riche homme d'affaires, devenu chef de guerre, a été condamné en première instance en 2016 à 18 ans de prison pour les crimes perpétrés par sa milice, le mouvement de libération du Congo, entre octobre 2002 et mars 2003. Jean-Pierre Bemba, 55 ans, a été rejeté appel en juin 2016 du jugement de la CPI à l'issue d'un procès qui a duré 6 ans. Mise en perspective avec Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Condamné en première instance à 18 ans de prison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, l'opposant congolais Jean-Pierre Bemba sera fixé ce vendredi 8 juin à partir de 16h heure de Kinshasa par la chambre d'appel de la Cour pénale internationale. Maître Aimé Kilolo, l'ancien coordonnateur de l'équipe de défense du leader du mouvement de libération du Congo, présente trois scénarios probables.
Première possibilité, décision d'acquittement pure et simple. Deuxième possibilité, un acquittement partiel. Dans cette hypothèse, ça veut dire que la durée de la peine pourrait être sensiblement diminuée. Et si cela correspond à une peine qui ne dépasse pas 10 ans d'emprisonnement, ceci pourrait entraîner évidemment sa remise en liberté, le cas échéant, sous condition de rester peut-être en Belgique. L'autre possibilité qui existe, c'est évidemment la possibilité de confirmer la décision qui avait déjà été prise en première instance. Et dans ces conditions-là, il ne pourrait être libéré qu'à concurrence de 2/3, c'est-à-dire d'ici environ 2 ans ou 3.
À Kinshasa, la plupart des personnes interrogées par VOA Afrique espèrent la libération de Jean-Pierre Bemba. Ce point de vue est également celui de son parti, le mouvement de libération du Congo, dont le secrétaire général adjoint Fidel Babala s'est montré très optimiste. Alors que les victimes centrafricaines de ces éléments attendent plutôt la confirmation de ces charges, Jean-Pierre Bemba Gombo a également reçu le soutien de plusieurs leaders de l'opposition congolaise, notamment Adolphe Mouzito, candidat annoncé à la prochaine présidentielle qu'il a rencontré cette semaine à la Cour pénale internationale. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Burundi, après la surprise créée par la décision du président Pierre Nkurunziza de ne pas se représenter en 2020, le scepticisme est le sentiment le plus répandu côté opposition. François Niamoya, du MSD, un opposant en exil au Rwanda, conseille la prudence.
Beaucoup de prudence parce que le personnage, il est habitué à changer de casquette et de ne pas tenir parole. D'autant plus que c'est assez surprenant. Ce qui est surprenant, c'est qu'il a mis beaucoup d'énergie, malgré toutes les pressions de part et d'autre, pour modifier la constitution. Et quand vous lisez la constitution très en détail, ce n'est pas une constitution qui est faite pour un État, c'est une constitution taillée pour un individu, pour une personne. C'est une constitution faite pour Nkurunziza. Alors, la question est celle-là. Comment se fait-il que quelqu'un qui a mis autant d'énergie pour modifier une constitution taillée à sa mesure, subitement, il dit « je ne me représenterai plus ». C'est surprenant.
François Niamoya, un responsable du parti burundais d'opposition MSD. En Afrique du Sud, le procès de l'ex-président Jacob Zuma, poursuivi pour corruption dans une affaire de vente d'armes datant de 1999, a été renvoyé ce vendredi au 27 juillet. La question des honoraires des avocats de M. Zuma serait à l'origine de ce report. L'ex-président veut que ces honoraires soient pris en charge par l'État. Et toujours concernant l'Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa veut rassurer la communauté blanche africaine du pays. Celle-ci ne doit pas percevoir le projet de réforme agraire comme une menace, mais plutôt comme un moyen de mobiliser le potentiel économique du pays et de guérir les divisions du passé, a déclaré le leader sud-africain jeudi. Les précisions de Lionel Gaïma.
Cyril Ramaphosa, qui a succédé en février à Jacob Zuma, a promis de redistribuer les terres à la majorité noire en réponse aux profondes inégalités raciales qui persistent dans le pays plus de deux décennies après la fin de l'apartheid. Toutefois, il a du mal à calmer les appréhensions des blancs sud-africains qui redoutent une violente occupation de leurs terres si l'opération était mal menée. Il ne faut pas voir la question de terre comme une raison de faire ses bagages et partir, a plaidé le président Ramaphosa hier lors d'une réunion de l'Afrikaner Bond, une organisation fondée il y a un siècle pour défendre les intérêts des descendants de colons hollandais. C'est une occasion de bâtir une société plus juste et plus équitable, qui utilise pleinement et efficacement ses ressources, a expliqué le chef de l'État sud-africain. Cyril Ramaphosa, qui a joué un rôle clé dans les négociations et a mis fin au régime de la minorité blanche en Afrique du Sud, a appelé les Afrikaners à aborder la réforme agraire dans le même esprit que celui de la transition vers la démocratie.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
À Afrique de l'Ouest maintenant, la MINUSMA, la mission de l'ONU au Mali, devrait jouer un rôle politique accru. C'est ce que souhaite le secrétaire général des Nations Unies. Dans un rapport au Conseil de sécurité, Antonio Guterres recommande de redéfinir les priorités de la MINUSMA, Eddie Sango.
Les rapports sont publiés dans la perspective du renouvellement fin juin du mandat de la MINUSMA. M. Guterres dit dans les textes avoir l'intention d'explorer les possibilités d'augmenter les rôles politiques de la MINUSMA en soutien du processus de paix. Il se base sur une étude stratégique indépendante réalisée en début d'année à la demande de l'ONU. L'étude se prononce pour l'élaboration d'un pacte pour la paix. M. Guterres soutient que l'accord de paix malien signé en 2015 reste la pierre angulaire du processus de paix. L'édit accord n'a pas, regrette-t-il, donné lieu à suffisamment de progrès significatifs sur le terrain 3 ans après sa signature. Par ailleurs, la situation humanitaire continue à empirer en raison de l'insécurité croissante dans le nord et les centres tombés en mars-avril 2012 sous la coupe des groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. M. Guterres exprime sa préoccupation face à la crise alimentaire dans le pays. Les djihadistes y ont été en grande partie chassés par une intervention militaire lancée en janvier 2013 à l'initiative de la France, mais des zones entières échappent toujours au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU.
Sommet du G7 au Canada, les leaders des plus grandes démocraties industrialisées se rencontrent aujourd'hui et demain au Québec, alors que le commerce et d'autres questions sont source de tensions entre Washington et ses alliés. La réunion risque d'être éclipsée par un autre face-à-face historique la semaine prochaine à Singapour. Mais ce sommet du G7 n'en sera pas probablement moins important pour l'avenir de l'économie mondiale ou le leadership international des États-Unis. Un avant-goût de la réunion au Québec avec Gabi Lorsil.
Oubliez les formes et les sourires. Un gouffre grandissant se précise, alors que les ministres des Finances des principaux pays industrialisés se préparent au sommet du G7 au Canada.
Je pense que vous devriez vous attendre à un sommet très animé selon les normes du G7, cela ne fait aucun doute.
Selon Jacob Kierkegaard, chercheur au Peterson Institute for International Economics, la décision de l'administration Trump d'imposer des droits de douane sur les importations d'aluminium et d'acier venant de ses plus proches alliés conduira à un isolement accru des États-Unis et à la menace réelle d'une guerre commerciale.
Avec le signal clair et l'intention déclarée de l'administration de faire probablement la même chose dans l'industrie automobile et des pièces automobiles, c'est une recette, pas pour une guerre commerciale mondiale, mais une guerre commerciale entre les États-Unis et tout le monde.
Mercredi, le directeur du Conseil économique national, Larry Kudlow, a défendu les actions de l'administration et a qualifié le désaccord de querelle familiale.
Le président Trump est très clair en ce qui concerne ses efforts pour la réforme commerciale, indiquant que nous ferons tout ce qui est nécessaire pour protéger les États-Unis, nos entreprises et notre main-d'œuvre.
Mais certains économistes disent que le résultat de la politique « l'Amérique d'abord » sera une Amérique seule. Certains s'attendent à ce que le Canada, hôte du sommet de cette année, lance la première salve. Bill Morneau est le ministre canadien des Finances.
Je veux dire, cela va causer des pertes d'emplois pour les Américains, des pertes d'emplois pour les Canadiens, et nous allons réagir comme il se doit pour faire valoir notre point de vue.
Les Canadiens et les Européens ont menacé tenter de riposter avec leurs propres tarifs sur les produits américains. Mais cette querelle familiale pourrait avoir de lourdes conséquences pour l'influence des États-Unis sur la scène mondiale, ce qui, selon les analystes, serait bénéfique pour la Chine.
Pour terminer, le président américain Donald Trump a exhorté ce vendredi ses homologues du G7 à envisager la réintégration de la Russie dans cette instance. La Russie avait été expulsée du G8 après son annexion de la Crimée. L'instance était alors redevenue le G7. Merci de votre attention.